La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Au micro avec vous aujourd'hui, le pasteur Lionel Fouché. Je suis pasteur dans l'église Assemblée de Dieu, dans le quartier Sainte-Agne, à Toulouse. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur Jésus, et puisque nous sommes dans le week-end de la Toussaint, il m'a semblé judicieux d'aborder avec vous le sujet de Jésus, qui est la résurrection et la vie. Jésus va se présenter ainsi à Marthe, la sœur de Marie et de Lazare, Lazare qui vient de mourir, et Jésus dira à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus est celui qui a le pouvoir sur la vie. Il est la résurrection et la vie. L'apôtre Paul dira, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine ». Nous voyons donc bien l'essentiel de ce message, que c'est fondamental dans la foi chrétienne. 1000 ans avant la résurrection de Jésus, le roi David, qui était aussi prophète, avait annoncé cette résurrection. Dans le psaume 16, verset 10, il écrit en effet, « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton élu se décompose dans le tombeau. » Oui, Jésus est celui qui est ressuscité. Il est monté sur la croix et il est mort pour nos péchés, et nous y croyons. Mais nous croyons aussi que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Le tombeau est vide. L'apôtre Paul écrira ceci dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, verset 9, je cite, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » La foi consiste à croire dans l'incarnation, dans la filiation divine, dans la messianité de notre Seigneur Jésus, dans sa seigneurie, dans sa mort expiatoire, ainsi que dans sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ est celui qui est ressuscité. L'apôtre Paul écrira encore dans son épître aux Romains qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Sa résurrection demeure non seulement le gage de la nôtre, mais aussi la garantie suprême de l'approbation divine quant à son œuvre parfaite sur la croix. Christ est mort sur la croix. Sa mort a été constatée par les soldats. Son corps a été déposé dans un tombeau taillé dans le roc et dont l'entrée était fermée d'une lourde pierre scellée. Par surcroît de précaution, des soldats de la garde du souverain sacrificateur veillaient pour empêcher les disciples de le dérober et de le faire croire à une pseudo-résurrection. Le troisième jour, au petit matin, il était déjà ressuscité quand les femmes vinrent au tombeau. La pierre avait été miraculeusement roulée pour permettre à tous de constater le miracle réel de la résurrection du Seigneur Jésus. Curieusement, les plus intimes ne le reconnaissent pas du premier coup. Marie-Madeleine le prend pour un jardinier. Il fait pratiquement 11 kilomètres à pied avec les disciples d'Emmaüs qui ne le reconnurent qu'au moment de la fraction du pain. Il est écrit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Oui, Jésus est ressuscité. Les premiers disciples de Jésus sont dans la tristesse parce que la mort les a séparés de leur maître, de leur Seigneur. Mais Jésus est ressuscité. Le Christ ressuscité ne meurt plus. Quelle joie lorsqu'ils vont découvrir, réaliser que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est vivant à tous les niveaux de son être. Il a vaincu la mort. Il est la résurrection et la vie. La foi dans cette réalité est indispensable au processus de notre vie nouvelle en lui. Car rappelons-nous que la mort est avant tout une séparation selon la définition du terme. Elle nous sépare de Dieu, elle nous sépare de nos semblables. mais Jésus est ressuscité. Et lorsque nous mettons toute notre foi en lui, il apporte alors une vie nouvelle avec Dieu. Ce qui était perdu par la mort, cette séparation, cet contact, cette communion avec Dieu, est rétabli par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort s'est répandue sur tous les hommes, est-il écrit, car tous ont péché. Ce diagnostic est constatable à tous les niveaux et sous diverses formes. Bien sûr, sous la forme physique du terme, mais pas seulement. Tous les compartiments de ce qui constitue l'existence humaine sont atteints et infectés par un contagieux principe de mort. Ce mot recouvre des notions et des significations spirituelles, morales, psychiques, affectives, sociales et physiques. La résurrection est une restauration qui concerne et pénètre toutes les sphères de la vie en y apportant guérison, rétablissement et restructuration. Ces notions sont illustrées par des scènes de l'Évangile où nous voyons des cas de résurrection. Comme tout à l'heure dans notre introduction, je citais cet exemple de la résurrection de Lazare qui a été séparé de ses sœurs, mais la résurrection va apporter pour lui non seulement une vie nouvelle sans la maladie qui l'avait atteint, mais en plus va restaurer la relation qu'il y avait avec ses sœurs que la mort avait interrompue. L'intervention de Jésus apporte à chaque fois un retour à la vie. J'aimerais citer l'exemple du fils prodigue. Lorsque ce fils prodigue va revenir à la maison de son père dira « Mon fils qui était mort est revenu à la vie ». En effet, par son choix irréfléchi, ce jeune homme partant du foyer familial va en quelque sorte mourir, c'est-à-dire être séparé de sa famille, séparé des siens. Cette rupture nous représente celle de l'humanité d'avec Dieu. La mort a eu dans la vie du fils prodigue des conséquences terribles, de toutes sortes et à tous les niveaux, au plan affectif, au plan familial, social, professionnel, personnel et voire même psychologique. Tout s'est trouvé atteint. La guérison vient par le retour à la vie spirituelle. Lorsque celui-ci prendra la décision de retourner chez son père et lui dire « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Son père va l'accueillir à bras grands ouverts. Sa joie est immense et il veut que toute la famille se réjouisse car son fils qui était mort est revenu à la vie. Prenons un autre exemple. C'est celui de la fille de Jaïrus. Il est écrit dans les évangiles, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 8, verset 42, qu'elle se meurt. La formule est volontairement empathique. Le père est chef de synagogue et il assiste, impuissant, à l'agonie de son enfant. Celle-ci n'est pas encore décédée lorsqu'il envoie chercher Jésus. C'est son dernier recours. Le temps que Jésus arrive dans cette famille, dans cette maison, la petite est décédée. La tristesse envahit alors cette maison. Mais Jésus va apporter la résurrection. Jésus va ramener la vie, lui qui est la résurrection et la vie. Et cette petite, la fille de Jaïrus, va ressusciter. La relation qui était perdue à cause de la mort avec ses parents va être rétablie. J'aimerais citer un autre exemple, et pour ce faire, j'aimerais lire dans la Bible le texte. Nous le trouvons dans Luc chapitre 7, à partir du verset 11. C'est la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Je cite « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur Jésus, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ici, nous voyons dans cette histoire que la mort a frappé deux fois cette famille. Le texte insiste pour préciser qu'il est fils unique de sa mère. Et en plus, elle est veuve. La mort a brisé deux relations. Une relation conjugale et une relation filiale. Essayons de nous mettre à la place de cette dame. Quelle tragédie, quelle tristesse, quel drame. La mort a frappé cette femme et cette famille. La mort affective peut se constater à plus d'un titre. Nous le voyons aujourd'hui, ce que procure cet état de mort. Comme je le disais tout à l'heure, la mort n'est pas simplement physique, elle est aussi affective, familiale, sociale. On peut rester en vie physiquement, mais être atteint, par ce principe de la mort, c'est-à-dire être séparé affectivement, séparé des siens, à cause peut-être d'une querelle, à cause d'une incompréhension, à cause de disputes et de tensions qui peuvent exister. Mais le retour à la vie va ramener un rétablissement dans la relation. J'aime beaucoup cette expression que nous avons lue à la fin de notre texte, « Jésus le rendit à sa mère ». Lorsque Jésus va s'approcher de ce cercueil, il est ému de compassion et il va ramener à la vie ce jeune homme. Et après, il est décrit que Jésus le rendit à sa mère. Le principe de vie s'étant installé dans la vie de ce jeune homme, la relation qui a été brisée à cause de la mort avec sa mère est rétablie. Jésus le rendit à sa mère. C'est aussi ça le miracle de la résurrection. Nous avons une espérance en Jésus. Nous avons en Jésus une consolation. Il est vrai que si son fils est ressuscité à cette femme, son mari ne l'est pas. Mais de savoir que Jésus est la résurrection et la vie apporte espérance et consolation. Car nous savons qu'un jour, nos yeux le verront, lui, Jésus, le ressuscité, lui, Jésus, celui qui est la résurrection et la vie. Et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui, et qu'un jour, nous serons avec nos bien-aimés pour le louer et pour l'adorer. Revenons à notre histoire du fils prodigue. Cette mort avait détruit beaucoup de relations, avait apporté bien des désastres dans sa vie. Nous remarquons que son retour à son père est un retour à la vie, une résurrection. Ce sont là aussi des retrouvailles avec toute sa famille. C'est ce qu'il nous faut vivre aujourd'hui. Jésus est la résurrection et la vie. Il n'y a pas de situation qui soit désespérée, impossible à celui qui est la résurrection et la vie. Peut-être que certains vivent des drames. Peut-être que certains sont séparés des leurs, non pas physiquement, mais affectivement, émotionnellement, familialement. Mais nous voulons placer notre espérance en celui qui est la résurrection et la vie, qui peut apporter un retour, une restauration, une réconciliation. Que son nom soit glorifié pour ce qu'il fait. Nous savons qu'en lui, notre espérance n'est pas vaine. Il est fidèle. Il est celui qui peut bouleverser les événements, renverser les situations. Notre Seigneur est rempli de compassion pour chacun d'entre nous, comme il le fut pour cette veuve de Naïm. Il va arrêter ceux qui portent ce cercueil vers sa destination finale. Notre Seigneur intervient pour arrêter le processus de mort qui s'est établi parfois dans certaines familles, dans certains foyers. Non seulement il arrête ce processus de mort, mais il apporte aussi la restauration de la relation. Lorsque Lazare sera ressuscité, il y aura cette restauration de la relation, comme pour la fille de Jaïrus qui va retrouver ses parents, comme pour le fils de cette veuve de Naïm qui va retrouver sa mère. Nous voulons apporter nos fardeaux à celui qui est la résurrection et la vie. Il y a des situations où humainement nous ne pouvons rien, il est vrai. Mais les yeux de notre cœur se portent sur Jésus, le ressuscité. Et pour tous nos bien-aimés qui sont partis bien avant nous, qui sont décédés, et ce week-end de la Toussaint nous le rappelle, nous plaçons notre espérance en Jésus. Car nous savons que nous ne sommes pas sans espérance et qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Marthe le dira au sujet de son frère. « Je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. » C'était son espérance à long terme. Et nous avons aussi cette espérance, car pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, il y a cette espérance de la gloire avec lui. Mais déjà ici-bas, revenons à la vie. Tel le fils prodigue revenant à la maison du Père, retournons à la maison de notre Père céleste, dans cette communion bénie avec lui et dans la présence de Jésus. Que notre âme revienne à la vie, qu'elle se réveille, qu'elle s'éveille en celui et avec celui qui est la résurrection et la vie, pour un nouveau départ dans cette vie, mais pas seul, avec Jésus le ressuscité. Et pour terminer le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce chant du collectif Cieux ouverts qui s'intitule tout simplement « Éveille-toi mon âme ». Thank you.
sous.